France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en France. 400 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 2017, d'où l'accent mis sur la prévention et les comportements individuels pour essayer de contenir cette maladie. Alors face au cancer, sommes-nous tous responsables? On en débat ce lundi dans du grain à moudre sur France Culture.
En écho à la journée mondiale de lutte contre le cancer ce lundi, sur France Culture, du grain à moudre à 18h20, et dernière nouvelle sur le cancer dans la méthode scientifique de Nicolas Martin, dès 16h et sur franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Il n'y aura pas de présidentielle anticipée au Venezuela. En tout cas, pas de présidentielle organisée par Nicolas Maduro. Le président élu rejette l'ultimatum des Européens. Dans une interview à la télévision espagnole, il dit ne pas faire preuve de lâcheté face à ces pressions. 7 pays européens, la France notamment, lui avaient demandé d'organiser une présidentielle, faute de quoi ils reconnaîtront l'opposant Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela. Le président américain Donald Trump lui a de nouveau menacé hier d'envoyer l'armée dans le pays. Les États-Unis qui envoient par ailleurs 3750 soldats de plus à la frontière américano-mexicaine. C'est ce qu'annonce cette nuit le Pentagone. Il s'agit, précise le communiqué, de soutenir les gardes frontières au sud-ouest du pays. Le pape François est arrivé hier soir aux Émirats Arabes Unis. Il devient ainsi le premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de la péninsule arabique, berceau de l'islam. Avant d'y atterrir, le pape avait demandé aux parties impliquées dans le conflit au Yémen de favoriser de manière urgente le respect des accords et pour une trêve notamment à Hodeïda, le port qui permet l'acheminement de l'aide internationale. Le pape François sera reçu par des dirigeants musulmans et politiques jusqu'à demain mardi. Dans l'actualité de ce début de semaine, nous apprenons aussi que Gérald Darmanin reste au gouvernement. Dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Action et des Comptes Publics met fin aux rumeurs sur son possible départ. Rumeurs lancées après le décès du maire de Tourcoing, Didier Drouard. Gérald Darmanin reste donc ministre et il conserve également sa place de premier adjoint à Tourcoing, mais ne brigue donc pas la mairie. Pendant ce temps à l'Élysée, Emmanuel Macron étudie l'hypothèse d'un référendum en France pour clore le grand débat national à la fin du mois de mai. Le journal du dimanche l'affirmait hier. Aujourd'hui, le président poursuit son tour de France. Il sera à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, au sud de Paris, pour ce grand débat.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithmes et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux. 4 tables rondes animées par les producteurs de France Culture pour comprendre le monde d'aujourd'hui. En partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Venez nombreux, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et c'est parti. Bonjour, les choses sérieuses reprennent. Le réveil culturel, c'est tous les jours à la radio à 6h du matin ou quand vous voulez en passant par le podcast, émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Pierrick Charles. Une chose sérieuse, c'est le titre du dernier roman de Gaël Obiegli qui oscille entre science-fiction, roman d'anticipation, fiction spéculative et dystopie. Mais c'est encore plus étrange que cela. Le roman est sorti en début d'année aux éditions Verticales. On en parle ce matin avec son auteur.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Gaël Obiegli.
Bonjour.
Alors, une chose sérieuse est aussi étrange que son narrateur. Alors, qui est donc cet homme qui nous donne du tu dès le début ? Le narrateur du roman, est-ce qu'il s'adresse vraiment directement au lecteur ou est-ce qu'il s'adresse à une autre personne ? Cet homme écrit-il son journal ? Et si tel était le cas, pourquoi il ne l'écrit que le dimanche et jamais au jour le jour? Mais c'est peut-être pas son journal, c'est peut-être juste son délire. On ne le saura réellement jamais, mais on se prend au jeu dès la première page et on ne lâche plus le roman pour essayer d'en savoir plus sur ce narrateur. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, le narrateur se dévoile, mais le mystère ne cesse de s'épaissir avec vous. Hein. C'est-à-dire que plus on avance, plus on comprend et plus le mystère est grand. Alors d'abord, on croit ce narrateur... On le prend pour un ghostwriter, pour une riche mécène qui l'a recueilli chez elle. On se demande au passage s'il n'est pas gigolo à ses heures perdues, ou tout simplement fou. Et en avançant, on apprend que cet étrange narrateur, Daniel pour le nommer, est un ancien gardien dans un parking qui se retrouve dans une communauté survivaliste financée par cette richissime Madame Chambray. Qui est cet auteur pour vous, Gaëlle Aubiegli?
Qui est cet auteur? Qui est Daniel?
Ouais, ce narrateur, j'allais
ce
dire.
Ce narrateur.
Mais c'est vrai qu'il prend la place de l'auteur, vous parlez à travers lui.
Oui, c'est le narrateur, mais c'est aussi un auteur, puisqu'il est engagé par cette femme qu'on appelle Chambray, qui est caricaturalement désignée comme la femme la plus riche du monde. Et il est chargé d'écrire ses mémoires. Et il est ghostwriter, comme vous disiez. D'ailleurs, j'ai entendu ghostwriter. Ouais. Et ça lui va bien aussi. Et
ghostwriter, oui, ça lui va bien. Enfin, tout ça pour ne pas utiliser la formule française qui dit nègre.
Bon, eh ben, voilà. Oui, je trouve très bien que vous n'ayez pas utilisé cette formule. Et alors, qu'est-ce que je disais?
Écrit les mémoires de cette riche? Ça aussi, on va le savoir. Oui. C'est parce que cet homme n'est pas un homme comme vous et moi, Gaëlle Aubiegli. Il est un peu particulier, c'est-à-dire, ou du moins, il prétend avoir une puce informatique greffée dans le cerveau. C'est-à-dire que ce scribe est en plus un cobaye de quelques expérimentations.
Oui, alors... Je trouve bien que vous disiez il prétend avoir une puce dans le cerveau, parce que tout au long de sa confession ou de sa prise de parole, il informe un hypothétique interlocuteur ou une interlocutrice qu'on lui a implanté une puce informatique dans le cerveau et que cette puce le rend extrêmement obéissant. Enfin, le rend obéissant et fait de lui un homme soumis au désir de Chambray, donc la maîtresse.
Alors, pas seulement obéissant, ça le rend aussi performant. Du coup, il est capable d'inventer des histoires à partir de quelques anecdotes de la vie de sa maîtresse. On peut le dire aussi comme ça.
Oui, il est augmenté, il est modifié par un implant informatique. Mais encore une fois, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un délire paranoïaque. Est-ce que c'est vrai ça, ou bien est-ce que c'est son invention? Mais dans les deux cas, et c'est ce qui donne le titre du livre Une chose sérieuse, que ce qu'il décrit soit vrai ou que ce soit ce sont des choses à prendre au sérieux.
Pourquoi vous dites ça justement, Gaëlle Aubiegli?
Parce que ce qu'il décrit, la réalité dans laquelle il se trouve, cette situation, donc un ermitage où on vit aux ordres d'une femme persuadée qu'il va y avoir une catastrophe et qui organise la survie.
La catastrophe, d'ailleurs, qui est attendue d'une manière plutôt positive. Hein, ça.
Bah oui, c'est ça parce que la catastrophe, elle...
C'est la promesse d'une autre vie.
Voilà, elle fournit une utopie. Donc, la perspective d'un monde qui sera renouvelé et qui sera... la perspective d'une renaissance. Et alors, j'ai commencé une phrase.
Oui, les choses sérieuses.
J'ai changé de cap, mais ça, c'est typique. Oui, ben en fait, ce que je voulais dire, c'est que qu'il s'agisse d'un délire paranoïaque, c'est tout à fait, c'est à prendre au sérieux, mais que si c'est pas le cas, si ce que décrit Daniel et la réalité objective, donc un futur proche, c'est aussi à prendre au sérieux. Tout est à prendre au sérieux, même si le ton n'a pas forcément l'air très sérieux.
Il est plutôt étrange, le ton que vous employez en prenant la parole de ce narrateur, de ce Daniel. Gaël Obiegli, je disais que votre roman Une chose sérieuse était à la lisière de la science-fiction, ou je pourrais dire aussi du roman d'anticipation ou du fantastique, parce qu'on a l'impression que vous décrivez un monde pas si éloigné. On est dans un futur plutôt proche.
Oui, c'est un futur proche. Et puis, la science-fiction, c'est plutôt c'est l'arrière-plan. Alors que le roman, dans sa facture, a plutôt l'air d'un roman naturaliste. Le ton est réaliste à tel point que... c'est la parole de quelqu'un avec tout ce que ça peut avoir de lacunaire et d'excessif, mais dans une situation de science-fiction, et il s'agit d'un futur proche, celui de la catastrophe du monde post-apocalyptique.
Diriez-vous que c'est un roman sur le transhumanisme, Une chose sérieuse, Gaël Obiegli, que c'est votre manière aussi, à vous, de vous emparer de ce thème de plus en plus présent dans la littérature contemporaine française, et pas seulement française d'ailleurs?
Je pense que plutôt que c'est pas un roman sur quelque chose en particulier. Le transhumanisme, oui, ça m'a intéressée à un moment, mais d'une manière complètement... anecdotique. Non, c'est-à-dire qu'à un moment...
C'est pourtant au centre de la dramaturgie de votre roman.
Oui, mais c'est pas un roman qui aborde cette question-là, ou alors d'une manière en biais. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez sans doute remarqué qu'il y a très très peu de connaissances scientifiques là-dedans. C'est un roman qui repose entièrement sur l'imagination.
Mais c'est comme si c'était acquis qu'on puisse être mi-humain, mi-machine, comme si c'était déjà acté le fait qu'on puisse rencontrer des personnages comme votre narrateur, c'est-à-dire avec une puce informatique greffée dans le cerveau.
Bah, c'est quasiment, je pense,
un homme augmenté, quoi.
Aujourd'hui, c'est pas très rare, puisque l'homme augmenté, c'est quelque chose de très ancien. À partir du moment où vous avez un pacemaker ou même une jambe de bois, vous êtes augmenté. Donc le transhumanisme, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais...
Vous avez raison, j'aurais dû rajouter un homme augmenté et programmé pour obéir à des tâches bien précises.
Ça, c'est autre chose, c'est la phase suivante.
D'après, et c'est votre roman.
C'est l'hybridation. Ouais. Là, c'est l'hybridation de l'homme et la machine, qui, à mon avis, mais vraiment très intuitivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver très vite et auquel on est déjà plus ou moins habitué, et donc on y consent.
Comment vous accueillez ça, Gaël Obiegli? C'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait peur, que vous attendez comme les personnages de votre roman attendent la catastrophe libératrice?
Comment j'attends ça? Je crois que c'est inéluctable, mais en même temps, je pense que l'homme n'est pas réductible à cette hybridation. Et le roman que j'ai écrit, il témoigne de ça.
Ouais, c'est sa part romantique, je dirais, oui. Gaël Obiegli. D'ailleurs, c'est pas innocent que vous ayez choisi comme tâche à cet homme augmenté la tâche de l'écriture. Il va écrire, il va être un écrivain.
Oui.
Un écrivain programmé pour écrire des histoires comme les gens aiment lire, c'est-à-dire il est programmé pour faire de la littérature commerciale.
Oui.
Sinon il n'aurait pas été engagé par Madame Chambray.
Oui, il a grâce à la puce informatique la capacité d'écrire un livre pour le lecteur d'aujourd'hui, comme il est dit dans le livre, c'est-à-dire de la littérature commerciale, c'est-à-dire une littérature qui s'écrit selon un projet et qui un projet qui a beaucoup de ressemblances avec des études de marché. Mais lui, le dimanche, il écrit autre chose.
Oui, lui, le dimanche, il redevient libre. On va en parler. Mais d'abord, quelle a été l'idée de départ de ce roman, Gaëlle Obiegli ?
L'idée de départ, je pense qu'elle apparaît quasiment plus dans le livre final, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que ce qui occupait nombre de mes discussions avec des amis, enfin, nombre de mes discussions, c'était la révolution, et qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça avait été remplacé par le thème de la catastrophe, enfin, c'est-à-dire cette perspective de la révolution. Elle a été balayée par celle de la catastrophe et de des utopies qu'elle promet aussi.
Mais vous n'attendez pas la catastrophe?
Non.
Ouais.
Non, j'attends pas la catastrophe, mais ce que je trouvais, intéressant, c'est d'imaginer un personnage qui va essayer de profiter de cette perspective-là pour refonder le monde, si c'est possible.
Stanna där. Backa.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
C'est dimanche. Alors je préférais ne pas penser au boulot. Mais je peux pas non plus me l'ôter totalement de l'esprit. En plus, maintenant, dans ma tête, il y a la puce qui me rend contiguë, pour ainsi dire, à Chambray. Elle a accès à moi et peut disposer de mes gestes et de mon intellect pour ses propres besoins. Je suis un peu un sac à main, un téléphone, puisqu'elle peut me charger à distance d'informations, remarques, formules de logique. Et elle peut me joindre à tout instant en pianotant sur un clavier ou en énonçant quelques suggestions dans un appareil à commande vocale qui passe inaperçu tellement qu'il est petit. Mais pas le dimanche. Le dimanche, on me fout la paix. Le dimanche, je vis selon ma volonté. Mais je vais te dire, ma volonté, ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Elle m'est propre, inaliénable, il n'y a rien à faire. Ce sont mes limites, du moins de leur point de vue. Donc, même en plein service, j'ai un peu l'esprit du dimanche, mais en sourdine. C'est un extrait d'Une chose sérieuse, le dernier roman de Gaëlle Obiegli, édité par Vertical. Cette idée-là de laisser au personnage, avec sa puce informatique greffée, enfin, du moins, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend, mais on veut bien le suivre, tout en se posant la question, est-ce vrai, est-ce du délire? Mais le fait de lui avoir laissé le dimanche pour qu'il retrouve un peu de son humanité, et en réalité, ce roman, ce n'est que son journal du dimanche, puisque les autres jours, il travaille. Gaëlle Obiegli, on a l'impression que vous êtes un peu Dieu dans cette affaire.
Moi, un peu Dieu?
Ben oui, vous avez créé ce personnage qui peut se reposer le dimanche et nous dire ce qu'il en est.
Mais pourquoi il peut, pourquoi est-ce qu'il a le droit de se reposer le dimanche? Eh bien, parce que on sait très bien que le dimanche, il va s'adonner à la pensée, comme tout être humain, tout être humain a, disons, trois dimensions, une dimension animale, une dimension sociale et une dimension de pensée. Et on sait que le dimanche, s'il est libre, il va penser et donc il va augmenter sa puissance. Et ce qui est très bon aussi pour l'homme-machine qu'il est, parce que ce qui fait la complexité, la puissance d'une machine, c'est sa proximité avec l'être humain.
Il remet pas en cause l'ordre établi, hein, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a un peu choisi d'être au milieu de cette communauté survivaliste.
Il remet pas en question, il est passif, il fait pas de zèle, mais il est passif. Mais en même temps, il y a une espèce de... On sent qu'il résiste. C'est de la résistance passive. Et qu'il se garde pour le jour où il va vraiment falloir passer à l'action. Et il dit lui-même... C'est-à-dire, je ne le fais pas parler là, mais il le dit lui-même. Il s'en fiche un peu de ce qu'on lui inflige. Mais lorsque on s'attaquera à quelqu'un qui lui est cher et qu'il veut protéger, c'est à ce moment-là qu'il se révoltera et qu'il organisera une révolte contre le sort.
Voilà, ce qui va nous permettre de parler de l'amour, parce qu'il est aussi question d'amour dans ce roman, dans la vie de ce narrateur, dans la vie de ce Daniel, étrange Daniel. Alors, la question se pose d'une drôle de manière. Il est attiré sexuellement par les hommes, donc on se dit il est homosexuel, mais il est amoureux d'une créature qui est mi-végétale, mi-animale, probablement féminine, elle s'appelle Jenny.
Oui, il a la seule femme qu'il ait aimée ou qu'il aime, c'est effectivement c'est une créature.
Et là aussi, on ne sait pas si c'est une créature de rêve ou une créature qu'il a réellement rencontrée.
Oui, qu'il a.
Et qui revient le hanter d'ailleurs.
Et qui revient le hanter. Il l'a rencontrée trois fois. Elle s'est trouvée trois fois sur son chemin. Une fois enfant, quand il était lui-même enfant. Et il l'a mordu par affection. Et ensuite, il s'est repenti. Elle s'est de nouveau trouvée sur son chemin, dans le train. Elle montait dans le train où il était. Et la troisième fois, eh bien, elle fait son entrée à l'Ermitage, là où il est.
Vous pouvez nous la décrire, cette Jenny, Gaëlle Obiegli?
Oui, alors... Elle mesure environ 1m65. Elle est assez massive. Elle a des cheveux longs et épais et un peu rouquins, avec quelques cheveux blancs. Et un visage dans le livre, un visage qui est qualifié de gaulois, c'est-à-dire un peu rougeau, avec des yeux clairs. Et voilà. Et alors surtout, elle a des capacités physiques qui sont surprenantes.
C'est son côté végétal, animal.
Elle peut sauter très haut. Alors, autrefois, il y avait un feuilleton qui passait à la télé qui s'appelait Super Jamie. Je ne sais pas si vous vous souvenez
de
ça.
Oui, bien sûr.
C'est un peu ça.
C'est ça la source de votre inspiration, Gaëlle Obiegli?
Un peu.
Dites-moi, pourquoi dans ce roman, vous vous mettez dans la peau de ce personnage qui est tout à la fois masculin, éloigné un peu de... Enfin, c'est ce qu'on se dit, éloigné de votre vie. Et parce que là, vous épousez, pas seulement sa voix, mais aussi ses réflexions, ses sentiments. C'est le jeu littéraire que d'être dans un espace-temps que vous ne connaissez pas, puisque c'est le futur proche, et dans un corps d'homme.
Je ne parlerai pas de jeu littéraire.
Ou de défi littéraire.
Non plus. C'est un peu plus fou que ça. C'est que quand j'écris, je me projette dans l'inconnu. Au début, c'est toujours obscur. Le langage va tracer des chemins lumineux. Et après avoir écrit un livre qui s'appelle N'être personne, où l'identité était vraiment, enfin, on arrivait à dissoudre l'identité de la narratrice. Ben, parvenue à ce rien du tout, je me suis dit qu'est-ce que je peux écrire maintenant? Je me suis projetée dans deux inconnus, c'est-à-dire une identité masculine le futur, mais un futur proche. Pas représenté. Parce que, bizarrement, je trouve que le futur lointain a donné lieu à plus de représentations. Voilà. Donc, c'est pas.
Et en plus, c'est même pas un futur post-apocalyptique, puisqu'on attend encore la grande catastrophe. C'est prêt, plutôt.
Oui. C'est pré-apocalyptique préparant l'après, l'apocalypse.
Avec les survivalistes. Gaëlle Obiegli dans Une chose sérieuse qu'on lit, mais alors vraiment avec un vrai plaisir parce qu'on est vraiment intrigué par ce personnage qui arrive à nous toucher, puis tous ces thèmes autour du transhumanisme qui sont vraiment présents, même si ce n'est jamais un roman à sujet, ça reste quand même une histoire. Est-ce qu'il y a des allégories qui m'auraient échappé à moi, par exemple? Est-ce que vous voulez dire autre chose à travers ce personnage de fiction?
Non.
Je vous dis ça parce qu'à un certain moment, il se pose la question, il se dit les fortiches de la survie, donc là il parle de cette communauté de survivalistes, comme nous autres, les perdants de la société de consommation, bientôt on va être logés à la même enseigne, ça, c'est, j'ai pas envie de raconter toute l'histoire d'une chose sérieuse, mais le fait qu'il utilise ces termes, ça renvoie à une prise de position politique.
Oui, mais c'est pas une allégorie, c'est dit.
Donc il y a un propos politique à travers ce roman qui peut, à certains moments, ressembler à une fable.
Oui, c'est bien sûr qu'il y a un propos politique. Dans la mesure où les personnages qui sont recrutés par cette femme richissime pour constituer cette communauté de survivants, ils sont recrutés selon des critères biologiques, mais aussi sociaux. Donc, ce sont des gens qui vivent dans la précarité et qui sont donc déjà formés à la survie. C'est une sorte d'élite de la survie que cette communauté de gens, de marginaux, de gens qui vivent dans la précarité ou de déviants, parce que réussir à vivre dans une société comme la nôtre en n'ayant rien et en ne pensant pas comme le plus grand nombre, c'est déjà faire preuve de capacité extraordinaire. Donc c'est en ça il y a bien sûr un aspect politique au livre en ce qu'il accorde une importance certaine à une certaine catégorie de gens.
Et d'une certaine organisation de la société.
Oui.
Et de son rapport aussi, même si c'est pas, une fois de plus, le sujet principal, de son rapport à la nature.
Oui. Son rapport à la nature, c'est-à-dire que ce à quoi on va former les membres de cette communauté, c'est à faire usage de la nature, c'est-à-dire de ce qui est disponible. Alors ça suppose d'être particulièrement observateur et inventif. Bon, alors ça c'est le lien qui existe entre observer et inventer, c'est un travail de pensée qui est commun à tous les hommes et aussi qui est commun aux hommes et aux animaux.
Et pour terminer, Gaëlle Obiegli, puisque vous parlez de pensée, quelle pensée vous habitez quand vous traversez, du moins, quand vous avez écrit ce roman, Une chose sérieuse? C'était plutôt la peur, l'angoisse de l'avenir ou une manière très souriante de décrire, depuis votre balcon d'écrivain, ce qui se trame, ce qui se prépare, ce qu'on dit du futur qui nous menace?
Non, c'était pas tranquille du tout. C'est plutôt la peur qui m'anime. Et puis, comme beaucoup de gens, l'aspiration à comprendre.
C'est édité chez Vertical. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, Gaëlle Obiegli, de votre dernier roman. Je rappelle le titre, Une chose sérieuse. Merci.
Merci.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30,
À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque dimanche à 11h, L'Esprit public par Émilie Aubry.
Ce dimanche, L'Esprit public fait son grand retour sur la scène parisienne du théâtre de l'Odéon à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Je vous laisse imaginer de quoi nous parlerons un peu plus de 3 mois des élections européennes. 3 femmes sinon rien, Monique Cantos-Perber, Sylvie Goulard et Christine Ockrent, pour donner la réplique à Daniel Cohn-Bendit.
L'Esprit public, en direct et en public, ce dimanche à 11h à l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos sur franceculture.fr. 10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine. Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le premier homme politique polonais ouvertement homosexuel a lancé hier un nouveau parti de centre-gauche pour les élections européennes. Il pourrait recueillir jusqu'à 10% des suffrages selon les premiers sondages. France Culture était au lancement de sa campagne hier à Varsovie. Dans cette édition, nous détaillerons aussi comment l'Union européenne va enquêter sur la viande suspecte importée de Pologne. Près de 800 kilos ont été découverts en France. Demander une compensation pour la fonction publique en réponse à l'incitation aux primes de fin d'année dans le privé. Force ouvrière marche du Havre jusqu'à Matignon. Et ce n'est pas que symbolique, vous le comprendrez. Et puis vous entendrez les dissensions entre les deux vice-présidents du Conseil italien. Ils s'affrontent par presse interposée autour de la ligne de train à grande vitesse Lyon-Turin. Et nous commençons donc par ce mince espoir de renouveau en Pologne. À 3 mois des élections européennes auxquelles il souhaite participer, Robert Biedroń a lancé son mouvement hier, baptisé Printemps. Militant LGBT de gauche, athée, il pourrait aujourd'hui fédérer 6 à 10% des voix dans ce pays conservateur et catholique qu'est la Pologne. Thomas Giraudeau a assisté au lancement de son mouvement hier.
Vous pouvez dire que je suis un rêveur. Imagine de John Lennon en fond sonore, un slogan, enfin le changement sur le pupitre et des idées révolutionnaires pour la Pologne, libéralisation de l'avortement, fin du financement public des cours de religion à l'école et sortie du charbon à l'horizon 2035, Olga, une jeune femme, est convaincue.
Je suis pour cette idée de séparation de l'Église et de l'État. Et puis il soutient la communauté LGBT, enfin il est de gauche et je le suis aussi, alors oui je le soutiens.
Robert Biedroń a aussi un atout, son expérience à la tête de Słupsk, une ville de 100 000 habitants au nord de la Pologne, et il ne manque pas de le rappeler.
Comme dans ma ville, à Słupsk, on peut parler aux habitants, et pas uniquement avant les élections. On peut améliorer la qualité de l'air. Et enfin, on peut éloigner l'Église de l'État. On l'a fait à Słupsk, et maintenant on va le faire dans toute la Pologne.
Mais l'homme part pour l'instant seul dans cette bataille pour les prochaines élections. Il refuse aujourd'hui une alliance avec l'un ou l'autre des deux principaux partis, la PO et le PiS, trop à droite pour lui. Une bonne stratégie selon Lala, une septuagénaire.
Tout simplement, Biedroń est un espoir pour ceux qui ne veulent voter ni pour le PO ni pour le PiS, et c'est très bien qu'il y aille seul. Maintenant, il est déjà à 10% dans les sondages, donc peut-être que c'est possible. Au contraire, s'il entre dans une coalition, il peut perdre beaucoup de ses électeurs.
Et d'après tous les spectateurs rencontrés, l'homosexualité de Robert Biedroń ne sera pas un obstacle à son ascension dans un pays pourtant très conservateur et catholique.
Thomas Giraudeau depuis Varsovie pour France Culture. Nous restons en Pologne où débute aujourd'hui la mission d'inspection européenne à l'abattoir de Kalinowo. C'est de là que sont partis près de 2,5 tonnes de viande suspecte, dont près de 800 kilos sont arrivés en France. Les précisions de Pierre Benazet.
Les experts sanitaires et vétérinaires européens devraient rester 3 jours à Kalinowo, ce village de la Voïvodie de Mazovie, à 110 km au nord-est de Varsovie. Ils doivent évidemment y inspecter les abattoirs Elkopol à l'origine du scandale. Les inspecteurs européens vont se pencher en priorité sur les pratiques nocturnes de cet abattoir, qui achetait apparemment sciemment des vaches malades et les faisait volontairement arriver la nuit. De même, ils vont devoir comprendre de quelle manière l'abattoir a pu contourner les deux inspections vétérinaires qu'imposent les règles sanitaires européennes avant et après l'abattage. Le système européen d'alerte rapide déclenché mercredi par la Commission a permis de retrouver la trace de la totalité des 2700 kilos recherchés et les dégâts se sont étendus puisque ce sont désormais 14 pays de l'UE vers lesquels cette viande a été exportée. Et la mission d'inspection de cette semaine n'est qu'un début puisque fin mars, début avril, la Commission européenne va mener en Pologne un audit général de l'ensemble de la filière de la viande de bœuf.
Et notons que la ministre française des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau, a demandé la création d'une force européenne d'inspection sanitaire. Emmanuel Macron défendra une nouvelle fois le débat national. Il sera ce soir en Ile-de-France, dans l'Essonne, à Évry-Courcouronnes. Selon le journal du dimanche paru hier, le chef de l'État étudierait d'ailleurs l'hypothèse d'un référendum pour sortir à la fin du mois de mai de ce grand débat. Ce pourrait être le 26 mai prochain, jour des élections européennes. Et pour le moment, ce grand débat national n'apaise pas la colère de certains gilets jaunes face aux violences policières. Hier, le président du syndicat étudiant UNL a dit vouloir porter plainte contre le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Louis Boyard aurait été blessé au pied ce week-end à Paris par les forces de l'ordre, dit-il. Alors que demain, mardi, se profile une nouvelle journée d'action, une journée de grève, cette fois à l'appel de la CGT notamment. De son côté, Force ouvrière, pour se faire entendre du gouvernement et pour réclamer une hausse des salaires des fonctionnaires, Force ouvrière organise une marche symbolique en ce moment entre Le Havre et Matignon à Paris. À l'initiative de FO Fonction Publique, cette marche veut suivre les traces du Premier ministre Édouard Philippe, ancien maire du Havre. Le secrétaire général de cette branche de Force ouvrière, Christian Grolier, espère être reçu à Matignon ce jeudi, après avoir rencontré des fonctionnaires de tous horizons.
L'idée, c'est d'être à peu près une cinquantaine sur la route, avec 25 permanents et 25-30 camarades qui se joignent à nous. Puis surtout, ça nous permet de traverser des villages, ça nous permet de traverser aussi des ronds-points, de discuter avec les gilets jaunes, de discuter avec les salariés, de rencontrer des élus. On est à la maternité de Bernay, qui est très symbolique, hein, puisque depuis plusieurs mois, les salariés se battent pour sauver cette maternité. Donc voilà, on essaie de faire aussi des services publics emblématiques. Il y a un côté symbolique, bien sûr, mais c'est important aussi pour nous de voir ce qui se passe dans les départements ruraux, de se rendre compte que aujourd'hui, quand vous avez un village où il n'y a plus aucun service public, le dernier élément de lien social qui est le bar du village ferme. Il n'y a plus aucun contact avec les gens, plus personne ne se parle. Et c'est comme ça qu'après, on a un délitement quand même tout ce qui est notion républicaine. Non, je pense que c'est au-delà du symbolique.
Christian Grolier, de Force ouvrière fonction publique, il répondait à Manon Claverie. Nicolas Maduro rejette l'ultimatum européen. 7 pays de l'Union, dont la France, avaient demandé au président vénézuélien d'organiser une nouvelle présidentielle anticipée. Sans cela, ils vont reconnaître son opposant, Juan Guaido, comme président du pays. Dans un entretien à la télévision espagnole, Nicolas Maduro reste donc ferme. Il refuse cette pression, dit-il. Il revendique la victoire. L'ancien maire de San Salvador, Nayib Bukele, dit avoir remporté la présidentielle de la République du Salvador dès le premier tour. Ce candidat anti-système, âgé de 37 ans, pourrait ainsi devenir le 6e président salvadorien depuis la fin de la guerre civile dans le pays en 92. En bref encore, cette visite déjà historique, le pape François est en ce moment aux Émirats Arabes Unis, c'est une première pour un souverain pontife. Il doit y rencontrer des dirigeants musulmans et politiques et il y voit l'occasion d'écrire une nouvelle page dans l'histoire des relations entre les religions, ce sont ses mots. Les associations d'aide humanitaire, par ailleurs, lui demandent surtout d'évoquer, lors de cette visite, la guerre au Yémen. Qui des deux l'emportera ? En Italie, la classe politique et les électeurs assistent en ce moment, impuissants, à la guerre des chefs. Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux vice-présidents du Conseil, s'opposent à la une de la presse. Hier, c'était sur la ligne de train à grande vitesse qui devrait relier d'ici 2030 Lyon à Turin. Pour ou contre cette ligne, les deux hommes se déchirent, Marie Duhamel.
Tant que nous serons au gouvernement, la liaison ferroviaire ne se fera pas, affirme Luigi Di Maio devant des électeurs des Abruzzes. Il se montre inflexible. Ce projet à 8,6 milliards d'euros, dont 35% à la charge des Italiens, est un immense gaspillage de l'argent qui pourrait aller à des projets utiles, dit le chef du mouvement populiste. Un nouveau métro à Turin, un meilleur réseau ferroviaire dans la péninsule par exemple. En pleine campagne électorale, avant notamment les européennes de mai, le mouvement 5 étoiles ne cédera rien à la Ligue, soutenu par une base électorale elle favorable au Lyon-Turin. Matteo Salvini, son chef casque jaune sur la tête, assurait vendredi aux ouvriers du chantier que celui-ci irait de l'avant. Il vaut mieux dépenser 3 milliards pour achever des travaux que pour boucher des trous et payer des indemnités à nos partenaires. Matteo Salvini s'était engagé par écrit à intégralement renégocier le projet du Lyon-Turin avant d'entrer au gouvernement. Il est donc contraint de tempérer. 1 milliard d'euros d'économies pourraient être trouvés. Une super connerie, dixit Luigi Di Maio. Ses deux alliés ont commandé un rapport pour évaluer les coûts et bénéfices que pourrait rapporter le projet. Il a été remis début janvier et serait en cours de traduction en français. Or à Paris, on s'impatiente. La ministre des Transports a invité l'Italie vendredi à prendre rapidement des décisions pour respecter le calendrier des travaux et mener ce projet commun à son terme.
Marie Duhamel depuis Rome pour France Culture. Elle aura passé sa vie à lutter pour la mémoire de son époux. Josette Audin est décédée ce week-end. Son mari, Maurice Audin, avait été torturé et tué par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Un crime d'État avait reconnu en septembre dernier le président de la République française, Emmanuel Macron. La pluie va arriver par le nord-ouest du pays ce lundi, qui sera marquée par une nouvelle perturbation pluvieuse, donc, qui arrive par la Bretagne et la Normandie. Elle va s'étendre à la mi-journée de l'Aquitaine aux Hauts-de-France, en passant par la région parisienne. La partie est du pays, en revanche, va bénéficier de belles éclaircies, des éclaircies fraîches, toutefois avec moins 3 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, moins 1 à Besançon, comptez 2 degrés à Lille et Bordeaux, 3 degrés à Paris et Lyon, 9 degrés la maximale dans la matinée, ce sera à Nice. Il est 6h40 et nous retrouvons Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées sur France Culture. Le fossé semble se creuser, Jacques, entre l'art contemporain et le grand public. Et cela, malgré le succès des salons et des foires internationales. On peut citer Genève ce week-end, Bruxelles depuis le 26 janvier et puis Karlsruhe ce mois-ci encore.
Oui, Clara, dans un livre paru récemment au Seuil sous le titre « Esthétique de la rencontre, l'énigme de l'art contemporain », Baptiste Morisot et Estelle Zong-Mingual s'emploient à scruter le paradoxe de l'art contemporain qui ne susciterait plus au mieux que de l'indifférence, au pire la dérision ou la colère. C'est ce qu'ils appellent l'indisponibilité des œuvres aujourd'hui, qui ne produisent plus d'effets émotionnels ou artistiques ni émancipateurs. Pour eux, ce n'est pas l'inculture du public, pas plus que les postures de certains artistes qu'il faudrait incriminer, mais une mutation du rapport à l'art marquée par une forme de consumérisme auquel les artistes réagiraient en se rendant indigestes, ainsi qu'une sorte de double contrainte schizophrénique qui pèserait sur eux. L'affirmation de la liberté absolue de la création artistique dans un contexte contraint de marché, avec en plus, depuis les avant-gardes du XXe siècle, la vocation à changer la vie par des reconfigurations de notre sensibilité ou de notre perception. Dans un livre qui vient de paraître chez Payot et Rivage sous le titre « Création et anarchie, l'œuvre d'art à l'âge de la religion capitaliste », Giorgio Agamben entreprend une archéologie de l'œuvre d'art. Il revient d'abord sur les révolutions esthétiques du siècle dernier, ainsi résumées par Guy Debord, qui avait fait partie des dernières franges des avant-gardes dans le mouvement lettriste. Le dadaïsme a voulu supprimer l'art sans le réaliser, et le surréalisme a voulu réaliser l'art sans le supprimer. La position critique élaborée depuis par les situationnistes a montré que la suppression et la réalisation de l'art sont les aspects inséparables d'un même dépassement de l'art. Commentaire d'Agamben, ce qui doit être supprimé, c'est l'œuvre au nom de quelque chose qui, dans l'art lui-même, va au-delà de l'œuvre et exige d'être réalisé non pas dans une œuvre, mais dans la vie. Les situationnistes entendaient de manière cohérente produire non des œuvres, mais des situations. Remontant la généalogie de la création artistique, le philosophe rappelle que chez les anciens Grecs, Aristote, à l'appui de ses analyses, l'artiste était considéré comme un artisan, pas comme un créateur, en ceci que la finalité de son activité résidait dans sa production, l'œuvre achevée, et pas dans un accomplissement personnel. Dans ce processus, il n'était pas à lui-même sa propre fin, contrairement à ce qui se passe dans la pensée ou l'action politique, puis est venue la conception médiévale et théologique et l'analogie avec la création divine, esquissée notamment par Thomas d'Aquin. Je cite « De même que la maison préexiste sous forme d'idée dans l'esprit de l'architecte, de même Dieu a créé le monde selon le modèle ou l'idée qui existait dans son esprit. » Mais, relève Agamben, ce que l'artiste a gagné d'un côté, l'indépendance par rapport à l'œuvre, vient pour ainsi dire à lui manquer de l'autre, car l'œuvre devient en quelque sorte accessoire, comme un résidu de son activité créatrice. Ce sera le triomphe plus tard de la figure de l'artiste démiurge célébré par le romantisme, une évolution amplifiée par une curieuse et discrète concomitance entre l'essor du mouvement liturgique dans l'Église et les avant-gardes du XXe siècle, à la même époque, la notion de performance aujourd'hui banalisée aurait une secrète analogie avec la pratique des mystères revendiquée par les courants liturgiques en référence au mystère d'Eleusis, action théâtrale faite de gestes et de paroles qui s'accomplissent dans le temps et dans le monde pour le salut des hommes. La perte de consistance propre de l'œuvre d'art comme objet muséal trouve son malin génie chez Marcel Duchamp et le Ready-Made. Face à l'objet urinoir, rien ne vient à la présence, passé le bref instant de surprise. Ce qui s'est produit ensuite, écrit Giorgio Agamben, c'est qu'une bande d'habiles spéculateurs et de dupes a transformé le ready-made en œuvre d'art, non qu'ils aient réussi à remettre réellement en mouvement la machine artistique qui tourne désormais à vide, mais un semblant de mouvement arrive à alimenter, plus pour très longtemps, ces temples de l'absurde que sont les musées d'art contemporain. Retour à l'œuvre et à la peinture avec l'article d'Amélie Adamo sur le retour de l'expressionnisme dans le magazine L'Œil. Depuis les années 2000, une nouvelle génération de peintres partage une même inspiration expressionniste, une même révolte, je cite, contre l'ordre du monde, un même désir furieux de peindre, un souffle de liberté et d'anticonformisme, une puissance formelle et une expressivité extrême. Pas étonnant, souligne Amélie Adamo, que le public soit touché par ce type de démarche percutante dans une société en crise et dans un monde de l'art contemporain bercé par les lois du marché, le lisse et la froideur désincarnée du concept qui laisse dubitatif ou indifférent. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et Xavier Martinet vient d'entrer le studio. Bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, la République centrafricaine, quel est le prix de l'accord de paix?
Eh oui, la RCA suspendue à un accord de paix qui doit être paraphé demain à Bangui. Accord porteur d'espoir parce que c'est le plus large depuis le début du conflit entre groupes armés du Nord et gouvernement, et d'interrogation aussi parce que c'est le 7e en 6 ans et que les influences étrangères se complexifient. Et on voit ça avec vous, Emmanuel Chauvin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de la Centrafrique. Beaucoup d'incertitudes sur cet accord, quel fruit de pourparlers initié par l'Union africaine en 2017, conclu au Soudan. La signature qui devait avoir lieu demain à Bangui avec les présidents centrafricains, tchadiens et soudanais a été reportée pour le paraf. Comment est-ce que vous pressentez les choses? C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, le consensus ou ce qui ressemble à une hésitation finale?
Bon, c'est peut-être un report qui est lié au fait que la signature pourrait avoir lieu à Khartoum et pas à Bangui, et puis simplement lié à des détails finaux à terminer. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un accord qui est à la fois une réussite a priori et sans doute qui a ses limites. Une réussite dans le sens où il inclut effectivement, comme vous l'avez dit, un très grand nombre d'acteurs, que ce soit donc des acteurs armés locaux, l'ensemble des groupes rebelles ainsi que le gouvernement, et puis l'ensemble des acteurs régionaux, notamment le Tchad, le Soudan, qui sont présents, ainsi que l'Union africaine et l'ONU, ainsi que d'autres observateurs internationaux comme la Russie ou la France. Mais d'un autre point de vue, cet accord pourrait accoucher d'une souris, si je puis dire. Il porterait principalement sur des postes qui seraient accordés au groupe rebelle, au gouvernement, si c'est le cas vraiment, ce serait très limité.
Oui, ce qui est une demande, on pourrait dire, secondaire des groupes armés. On va en reparler du texte de l'accord. Juste sur les conditions, le fait qu'il soit paraphé, qu'il ait été négocié à Khartoum, il y avait déjà eu des interrogations, même plus que ça, des critiques de la France, notamment à l'ONU, sur des négociations qui avaient été convoquées par la Russie, disait-elle à demi-mot, au Soudan. Ça veut dire que cette fois-ci, au moins cet obstacle a été dépassé, ou encore une fois, c'est mauvais signe sur la qualité de l'accord, disons.
Non, ce n'est pas forcément mauvais signe. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent sans doute la signature à Khartoum. Le premier, il faut le rappeler, c'est que le Soudan a un rôle important dans le conflit centrafricain, qui est une guerre civile régionalisée, donc avec des acteurs régionaux qui interviennent à l'intérieur du conflit. Le Soudan a un lien fort avec le nord-est de la Centrafrique, où sont présents les anciens Séléka, donc qui est une rébellion. l'ensemble du Nord-Est est en fait plus tourné vers le Soudan que vers Bangui, notamment pour les trafics en tout genre, d'armes aux diamants, en passant par des produits de faune sauvage. Et donc les rebellions du Nord-Est connaissent bien Khartoum et peuvent notamment s'y rendre, sachant que plusieurs chefs rebelles sont interdits de voyager, mais voyagent dans les faits à Khartoum et à N'Djamena. Ils sont interdits de voyager par des sanctions onusiennes. Donc ça permettait à des chefs rebelles d'aller en fait signer l'accord de paix. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, Khartoum est bien sûr allié en partie à la Russie et à la Chine. Et donc, ça permettait de donner, si je puis dire, une carte à la Russie dans la signature de l'accord, sachant que le Soudan, au départ, n'était pas présent dans l'initiative africaine qui soutenait la mise en place de cet accord. Donc, c'était une manière aussi de l'inclure.
Et de manière plus conjoncturelle, est-ce que l'inclusion, justement, de Khartoum dans le processus, c'est pas une manière de mettre un terme à ces questions qui ont été soulevées par l'ONU à la fin de l'année dernière, d'achat d'armes par les milices du Nord, le FPRC nommément, d'achat d'armes qui venaient du Darfour et qui étaient déstockées par le gouvernement soudanais ou affilié?
Oui, c'est une manière de concilier, on va dire, l'une des parties, effectivement, les groupes armés du Nord-Est, le FRC, mais aussi l'UPC, qui est un peu plus au centre-est, effectivement, des liens forts, y compris en termes d'armement. C'est là où il s'arme, depuis à Khartoum, au Soudan, à Niala, mais aussi en termes de ravitaillement, c'est là où c'est la principale voie d'extraversion, si vous voulez, de l'Est de la Centrafrique, et c'est maintenant le Soudan, et le reste de la Centrafrique est tourné vers le Cameroun.
Oui.
Donc c'est une manière de prendre en compte Khartoum dans le processus.
Et puis vous l'avez dit, concernant le texte de l'accord, faudra voir quelles demandes des groupes armés ont été résolues. Mais il y avait déjà une indication de Aboubakar Sidi, qui était un porte-parole du FPRC, qui a parlé à l'AFP et d'autres médias, et qui disait dès samedi, on a obtenu un compromis sur, je cite, la dissolution du gouvernement et la formation d'un gouvernement de sortie de crise. Donc c'est un peu ce que vous disiez. Et également d'autres informations de Spoutnik cette fois, qui parleraient même de mesures plus poussées comme des patrouilles mixtes à la frontière, une commission pour examiner les crimes, un premier ministre, donc Axeleka, nommé une semaine après la signature de l'accord. Est-ce que vous avez eu des informations sur le texte, vous?
Non, alors je n'ai pas obtenu le texte, il est sous embargo, y compris en haut lieu. On a quand même les questions qui étaient discutées par l'initiative de paix africaine. Donc il y avait des questions politiques, économiques, défense et sécurité, de justice. Pour faire simple, il y avait principalement l'amnistie des personnes, pour les personnes ayant participé au conflit. Il y avait le partage du pouvoir, sans doute également le statut des leaders des groupes armés, est-ce qu'ils peuvent donc rentrer ou non au gouvernement. Comme vous le disiez, la création d'unités mixtes de patrouille, c'est-à-dire en fait la reconnaissance de facto de ces groupes armés qui sont sur le territoire, ouais. leur capacité à mener un contrôle territorial. Voilà les principaux points qui étaient discutés. Il se pourrait effectivement que, d'après les informations qu'on a, qu'il est à peu près sûr que le gouvernement serait remanié avec l'inclusion de chefs rebelles. Après, bon, tout cela est intéressant. Reste à savoir s'il sera mis en application, si ça ne restera pas simplement une feuille de papier signée, et si la population bénéficiera effectivement d'un retour à la paix, ouais. à la fin des violences.
Oui, une grande partie sera dans la différence entre le papier et l'application. Et puis, il y a ce point crucial, vous en avez parlé deux fois, de l'amnistie qui a été évoquée plusieurs fois par les groupes rebelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais l'amnistie apparaît comme telle dans l'accord, et mettons qu'elle est condition de l'accord effectivement, est-ce que ça risque pas d'être très mal pris par une partie de la population centrafricaine, plus largement? S'il n'y a pas de justice transitionnelle, est-ce qu'il n'y a pas un processus de paix corrompu ou impossible à la fin, de toute façon?
Ça pourrait poser un problème à plusieurs parties. D'abord, évidemment, la population, ensuite, un ensemble d'acteurs, notamment onusiens, d'ONG, et puis d'États occidentaux, qui sont très attachés au fait qu'il n'y ait pas une amnistie générale. Dans le texte cadre qui fixait cet accord, il était bien écrit que cet accord ne pouvait pas accorder d'amnistie, ou en tout cas ne devait pas travailler sur ce point. Donc je ne pense pas qu'il y aura un accord sur l'amnistie. Je pense que ce point a été écarté pour mieux, si vous voulez, travailler ensuite dessus, peut-être par des grâces suite à des condamnations, par le fait qu'on repousse sans cesse l'arrestation et la mise en jugement des chefs armés. Donc il se pourrait que ce point ait été écarté pour le moment, de manière à ce que les autres points puissent rentrer en œuvre.
Autre chose concernant l'application du processus de paix, c'est peut-être plus conjoncturel, mais est-ce que tous les groupes armés, même s'ils y étaient, il y en avait 14 présents au Soudan, ont vraiment intérêt à participer? Je parle notamment de ceux qui sont un peu irréductibles à l'ensemble de ceux qu'on appelle les rebelles du Nord, qui sont pas ex-Séléka, mais des autodéfenses de l'Ouest. On parle d'un groupe qui s'appelle 3R, par exemple. Et puis, je parle aussi de cette présence du FPRC dans le Nord-Est, qui est presque en mesure d'administrer, en tout cas de lever l'impôt dans certaines zones, comme Délé.
Oui, il faut comprendre que, vous avez raison, il faut le rappeler, l'ensemble une grande partie de ces groupes armés sont des États dans l'État. Donc la Centrafrique est partagée entre des groupes armés qui ont quasiment une forme de petite administration parallèle. Et donc, deux choses. Premièrement, une grande partie de ces groupes armés n'ont pas forcément intérêt à ce que, sur le terrain, la paix se fasse. La violence permet l'acquisition de ressources minières, du bétail notamment. Donc une partie de ces groupes n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une normalisation de la situation, ou alors il faudrait qu'on reconnaisse leur autonomie locale. Et puis deuxième chose, c'est que plusieurs fois dans l'histoire de la Centrafrique, la paix a aussi servi de ressources. C'est le fait d'obtenir un accord de paix, c'est un moyen d'obtenir des perdièmes, d'aller obtenir des valises d'argent, etc. Donc il n'est pas du tout sûr que, au-delà de la façade de l'accord, et au-delà du fait que ces groupes pourraient profiter de postes pour, encore une fois, capter des ressources, cela ait des implications locales fortes et positives.
Oui, ce qui donne un autre éclairage sur la multiplication de ces accords de paix et ces négociations ces dernières années. Ben, on verra demain la signature et la suite. Merci beaucoup aujourd'hui pour toutes vos explications, Emmanuel Chauvin. Je rappelle, géographe, maître de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente La dernière folie de Claire Darling, un film de Julie Bertuccelli.
Vous allez bien, Madame Darling ?
Non, mais c'est gentil de demander.
Persuadée de vivre son dernier jour, Claire Darling décide de vider sa maison et brade ses objets tant aimés.
Combien pour ce bureau ?
20 euros. Mon arrière-grand-père l'avait acheté en 1920 au baron de Malvais.
Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans.
Il faut absolument que tu l'arrêtes.
La dernière folie de Claire Darling, avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, mercredi 6 février au cinéma. Un film France Culture.
Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Et comme tous les lundis à 6h57, c'est le début des matins avec
oui,
Guillaume
Bonjour,
Vernet.
Xavier Martinet. Bonjour à tous.
Alors, les millennials, qui sont ces jeunes déjà vieux?
Alors, si on ne vous a jamais infligé d'article sur les millennials, Xavier, c'est que vous ne lisez pas la presse parce que vous êtes un millennial, Xavier. Les millennials sont des individus devenus adultes aux environs de l'an 2000, une génération de consommateurs, mais aussi de gens de pouvoir. Il paraît, par exemple, qu'un millennial gouverne la France. Alors, les millénials sont nombreux, 2 milliards à la louche. En Chine seulement, ils sont 400 millions. Mais précisément, ils sont tellement nombreux qu'il est évidemment impossible de leur conférer une quelconque homogénéité. Et c'est ça, d'ailleurs, le paradoxe. Depuis quand avoir le même âge veut dire se ressembler? Les millénials n'ont pour seul point commun que la biologie. Leurs cellules se sont donc développées entre 1980 et 2000. La multiplication du discours sur cette pseudo-classe montre la manière dont la sociologie est en train de se distinguer dissoudre dans le marketing. Les millennials intéressent parce qu'étant 2 milliards, ils dépensent évidemment un pognon de dingue, d'où les études qui leur sont consacrées. Alors face à cette pseudo-notion de millennial, le Marx sociologue se retournerait doublement dans sa tombe. L'idée marxiste, c'est qu'une condition économique façonne mode de vie et vision du monde, une idée popularisée au point d'avoir donné du boulot aux sondeurs, aux marketeurs qui étudient les CSP, les catégories socio-professionnelles. Alors certes, à un certain niveau de généralité, être né au même moment provoque des comportements communs, mais les disparités de revenus et de situations sociales sont telles qu'il n'y a rien d'homogène dans le comportement de ces personnes. Leur prêter un mode de vie commun marque en fait l'oubli définitif d'une approche sociologique véritable. Parler de millénial, c'est faire croire qu'une classe d'âge équivaut à une classe de consommateurs. La diffusion de ce terme révèle l'emprise donc que le marketing possède sur notre monde, parce qu'il paraît que les plus aisés des millénials achètent des produits de luxe, s'étourdissent dans la consommation, mais ça n'est pas leur identité commune de millénials qui les incite à consommer de manière identique. Ce sont peut-être, par exemple, les difficultés de cette génération qui l'incitent à s'abîmer dans la consommation, comme si leur fétichisme de la marchandise marquait un retour aux sociétés primitives.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Que pourrait être un programme politique de gauche? Tout ce week-end, la scène politique a été agitée par des mouvements de rassemblement, de tentatives de rassemblement. Le PS, place publique, soit, mais dans ces conditions, où iraient les Verts? Bref, toutes ces questions concernent les politiques, mais les citoyens, eux, veulent un programme. Que pourrait être un programme de gauche? Un vrai programme de gauche? On va en parler avec une sociologue et une économiste, Dominique Méda, et elle sera rejointe par un historien qui a beaucoup réfléchi à la question de l'impôt, Nicolas Delalande. Excellent réveil à tous, il est 7h sur France Culture.